Socrantiel présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, j'ai demandé au docteur Durand de nous expliquer comment il arrivait à faire un diagnostic sur un patient. Ceci à partir de l'anamnèse et d'un examen physique. Docteur Durand, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Alors, un patient arrive dans votre cabinet. Quel est votre souci? Quelle est votre réaction? Quelle est votre technique?
Somme toute, quelle est la démarche d'un médecin vis-à-vis d'un patient qu'il ne connaît pas?
Exactement.
Et qui consulte pour la première fois? En fait, il y a deux éléments importants, comme vous l'avez dit. C'est l'histoire de ce patient, ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous amène, quelle est la raison de votre arrivée, mais aussi qu'est-ce qui fait que vous avez une raison de consulter. Donc on va retourner dans les symptômes antérieurs. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Tout ce qui va entourer l'apparition des symptômes est important pour construire un diagnostic.
Est-ce donc, que vous commencez par les signes généraux?
Alors, il est évident que quelqu'un qui rentre dans un cabinet nous donne déjà beaucoup de renseignements. Il boite, il ne boite pas, il a des douleurs, il est grimaçant, il est souriant. On a déjà un aspect du patient qui nous donne quelques idées. Il est en souffrance, il n'est pas en souffrance. Ensuite, il y a la façon de parler, de s'exprimer. Quelqu'un qui a fait un accident vasculaire va avoir des difficultés de parole. Ouais. Quelqu'un qui va avoir des problèmes au niveau des membres inférieurs, qu'il s'agisse de problèmes vasculaires, d'artérites, ou qu'il s'agisse de problèmes nerveux, ce qu'on appelle neuropathie, vont marcher de façon différente. Donc,
déjà, il y a... quand votre patient entre, vous avez déjà une idée?
On a déjà une petite idée sur ce qui pourrait ne pas aller. Mais oui, parfois, ce n'est pas le motif de la consultation. Et effectivement, le motif de la consultation, après, sera à relier avec toutes les observations que nous avons faites.
Oui.
Alors, donc, première chose, l'interrogatoire, ce qui amène le patient. On complète cet interrogatoire avec l'anamnèse. Pourquoi ceci est apparu? Et à partir de là, il y a un lien qui se crée entre le médecin et le patient, qui va nous permettre de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'examen physique. L'examen physique va comprendre, bien sûr, la taille, le poids, et ce qu'on appelle aussi le rapport taille-surpoids, plus précisément le body mass index en anglais, et en français, l'indice de masse corporelle.
Oui, alors ça, ce serait bien que vous nous donniez exactement les chiffres, nos auditeurs pourront voir où ils en sont.
Alors, l'indice de masse corporelle, ça se calcule en fonction de la taille divisée par le poids au carré. Donc, il faut avoir une table un petit peu particulière que vous trouverez dans vos systèmes, vos tablettes informatiques ou
oui,
bien sur votre ordinateur. Donc, indice de masse corporelle. Pour rappeler que de 20 à 25, ça donne un rapport, c'est-à-dire
oui,
un chiffre. Si vous avez un rapport qui est de 20 à 25, vous êtes dans la normale, ni trop gros, ni trop maigre. En dessous de 20, on appelle ça maigreur. De 25 à 30, on appelle ça surpoids. Si votre indice de masse corporelle est de 30 à 35, on appelle cela obésité. Et s'il est supérieur à 35, on appelle ça obésité maladive, ce qui veut dire que vous avez quand même des risques
oui,
assez importants de santé à venir.
Il faut se mettre vraiment au régime.
Il faut se mettre au régime, oui. Donc on a dit, voilà, ça, l'examen physique, on prend la taille, on prend le poids, et puis en premier...
La température quand même.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va être un motif de consultation très souvent, la température.
Oui.
Je viens parce que j'ai de la température,
voilà,
ou parce que le petit a de la température. Avant de procéder à une palpation en général, ou l'examen de certains organes qui font mal, je sais pas, un poignet, un ventre, un estomac, il va y avoir une prise de tension, on va prendre la tension,
mm-hmm,
on va écouter le cœur, et on va écouter les bronches pour voir un petit peu comment ça respire. Voilà, ce sont les examens un petit peu routiniers habituels, ensuite les examens plus précis.
Qui va concerner le problème
voilà,
du malade.
Voilà, vous avez mal, je viens parce que j'ai le gros orteil du pied qui gonfle, et peut-être c'est une crise de goutte. Voilà,
ou
j'ai peut-être un exemple.
Et à ce moment-là, il va falloir
voilà,
faire quelque chose sur l'appareil digestif.
Voilà, alors cette étape de palpation et d'examen de la peau et des organes, va provoquer sans doute, peut-être oui, peut-être non, une série d'examens, d'examens complémentaires.
Oui, mais peut-être déjà, en palpant, vous allez trouver s'il y a quelque chose dans l'appareil digestif qui fait que ça va suffire pour faire un diagnostic.
Ça peut être suffisant pour faire un diagnostic ou un diagnostic par élimination. Il n'y a pas de douleur provoquée, il n'y a pas le souffle est normal alors qu'on pensait qu'il y avait une altération, qu'il y avait de l'asthme. Voilà. Et très souvent, je reviens à ce qui vient d'être dit, nous sommes obligés de faire un petit examen complémentaire, examen de laboratoire. Alors, je crois, Christiane, que vos patients... ce que vous avez vu, vous demandez aussi prise de sang. Nous faisons à notre époque beaucoup de prise de sang. Qu'est-ce qu'on cherche ?
Voilà.
Que cherche-t-on ?
Parce que ça, c'est quand même important pour le patient de savoir, quand il va au laboratoire, finalement, à quoi vont correspondre tous les sigles, même qui sont sur la feuille.
Qui sont mentionnés sur l'ordonnance. Voilà. Oui. Alors, la prise de sang... que beaucoup redoutent, alors que les aiguilles sont très petites, très bien affûtées. Je crois qu'à notre époque, une prise de sang ne fait pas mal. Prise de sang, elle peut être, on va dire, standard, c'est-à-dire des choses qui se cherchent assez systématiquement. Qu'est-ce qu'on cherche ? Alors, souvent dans la prise de sang, vous verrez marqué NFS.
Alors, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire numération formule sanguine. Ça, c'est pour chercher les globules. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les globules ? Globules rouges, on va trouver si vous en avez assez, si vous en manquez, s'il y en a trop. On va trouver donc si vous avez de l'anémie ou si au contraire, vous avez trop de globules. Ça peut arriver dans certaines maladies. On va avoir les globules blancs dans cette NFS. Globules blancs qui va montrer si vous avez de l'infection, si vous avez des signes un petit peu particuliers parce que vous manquez de globules ou s'il y en a trop, si vous avez une tendance allergique. Et on va voir aussi dans NFS, en général, on demande toujours les plaquettes. Les plaquettes servant à vérifier si votre coagulation avec les plaquettes est bonne. Ça, c'est un examen de base quand on fait une recherche sanguine. Le deuxième examen qui se fait pratiquement tout le temps, c'est la recherche du diabète, qui s'appelle glycémie.
Ah oui.
Les diabétiques connaissent bien ça. Ils savent en particulier, les diabétiques, qu'ils ont un deuxième examen qu'ils font conjointement à la glycémie. C'est la recherche de l'hémoglobine glyquée, qui est une glycémie.
On n'a pas très bien compris.
Ça s'appelle hémoglobine glyquée.
Glyquée.
Parce qu'il s'agit du glucose.
Voilà. Donc là, c'est le sucre.
C'est le sucre, et c'est la recherche de sucre dans le sang, mais on va dire de la variation du sucre dans le sang sur une période de plusieurs jours. Donc il est un petit peu plus pointu que la glycémie. La glycémie, c'est la recherche du sang dans le sucre qui se fait le matin. Et n'oublions pas que pour cela, il faut être à jeun quand vous allez faire une prise de sang. La glycémie est un examen qui se fait à jeun, alors que d'autres examens peuvent se faire en étant pas à jeun, notamment les globules, vous pouvez faire une prise de sang alors que vous n'êtes pas à jeun. Pour la glycémie, il vaut mieux. Qu'est-ce qu'on va chercher dans...
Il y a quand même beaucoup d'analyses qui se font à jeun, parce qu'il y a beaucoup de monde d'ailleurs dans les laboratoires le matin.
Oui, puis c'est plus commode aussi de le faire le matin. Mais c'est vrai que la raison, souvent, c'est d'être à jeun. Mais je précise que certains examens ne sont pas obligatoirement à jeun. Qu'est-ce qu'on fait encore ? On fait une recherche de cholestérol. Alors, actuellement, la recherche...
Alors ça, c'est très important parce que beaucoup ont des analyses pour la recherche du cholestérol et on sait qu'il y a du bon et du mauvais. Alors, expliquez-nous cela.
Tout d'abord, le petit sigle. Maintenant, on met EAL. EAL, c'est recherche d'une anomalie lipidique. Examen d'une anomalie lipidique.
Lipides, ce sont les corps gras.
Voilà, ce sont les corps gras. Ce qui évite de mettre tous les examens qui vont être faits, c'est-à-dire, on recherche en général le cholestérol total.
Oui.
Et depuis de nombreuses années, on recherche les sous-fractions du cholestérol. C'est-à-dire que dans le cholestérol, on s'est aperçu qu'il y avait du bon et du mauvais. Parce que certaines personnes avaient du bon cholestérol, Et ces personnes-là n'avaient pas de problème cardiaque, par exemple, alors que le taux de cholestérol était très élevé. Ceci étant à cause du bon cholestérol qui
Mais comment on voit
contenu.
la différence entre le bon et le mauvais?
C'est l'analyse qui va dire bon cholestérol et mauvais cholestérol. Dans l'analyse de recherche de ces lipides, il y a les HDL qui vont correspondre au bon cholestérol. Il y a les LDL qui correspondent au mauvais
Et ça veut
cholestérol.
dire quoi, LDL?
C'est low density lipid. En fait, c'est un sigle américain.
Mais HDI.
Et H, c'est high density. C'est-à-dire, c'est on le bon cholestérol fait des espèces de petites globules, de
Ah oui.
petites sphérules qui sont de haute densité. C'est pour ça que ça
Voilà.
s'appelle HDL.
Voilà, comme ça, on peut comprendre comment dans le laboratoire, on les reconnaît.
Voilà. Donc, le laboratoire a une technique particulière pour trouver le bon et le mauvais cholestérol, ce
D'accord.
qu'on va vous dire ensuite dans les résultats. On va vous parler ensuite des triglycérides, qui sont d'autres corps gras, qui sont souvent augmentés en cas d'ingestion exagérée de sucre chez les personnes. Ça, enfin, il y a différents facteurs qui font que les triglycérides sont élevés. Alors, ces prises sans standard. La plupart du temps, vous allez avoir tout ceci, recherche de glycémie, recherche du cholestérol, recherche de l'urée, éventuellement recherche sodium, potassium, chlore. C'est le standard. Il y a d'autres examens dans la prise de sang qui sont beaucoup plus spécifiques. Ce sont par exemple examens avec recherche d'INR pour les gens qui ont un facteur d'anticoagulation dans le sang, qui prennent ce qu'on appelle des antivitamines K et qui sont obligés chaque 15 jours ou chaque mois de faire une analyse. Et ils font cette prise de sang qui donne
Parce que
les
vous savez,
INR.
eux, ils ne coagulent pas.
Voilà, on les a mis en anticoagulation pour éviter d'avoir des problèmes cardiaques la plupart du temps ou cérébraux. Nous en avons parlé dans une autre
Oui.
émission. Et ensuite, dans les examens de laboratoire, il y a quelque chose d'important dont nous pourrons peut-être reparler, ce sont les marqueurs.
Ah oui, ça c'est très important.
Alors, les marqueurs, ce sont des substances, la plupart du temps des anticorps, qui sont sécrétés par ou contre certaines tumeurs. Et ces taux sont élevés dans le cas de développement de la tumeur, sinon ces taux sont de valeur relativement modeste, le plus connu étant le PSA.
Oui, alors pour les hommes, effectivement, on cherche le
On
taux de
cherche le
PSA.
taux de PSA qui est en fait provoqué par des prostates qui sont un petit peu grosses ou alors qui sont en train de se développer avec une tumeur à l'intérieur. Et le fait de suivre un PSA permet de façon quand même non absolu, il faut toujours relativiser les prises de sang, il faut qu'elles soient confortées par d'autres examens. Et dans ce cas-là, on peut avoir une idée s'il s'agit d'une anomalie ou quelque chose à vérifier.
Eh bien, je crois que maintenant nous savons tout sur les prises de sang. Et ça, je vous en remercie beaucoup, docteur Durand, parce que c'est quelque chose que chaque individu refait chaque année. Un grand merci à vous. Et je rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous réécouter sur notre site internet radiograndciel.fr.
Christiane Blain, merci.